Merci beaucoup Aurélie pour ce magnifique voyage. En effet, c'est vraiment ton chemin, un chemin. Donc tu nous ouvres la voie là, pour ce matin, c'est extraordinaire. Tu n'as pas beaucoup de freins, on a l'impression. Tu n'as pas beaucoup de blocages. On a l'impression que tu as enlevé le frein à main, quoi. Je sais que Serge, lui, travaille sur ses freins, ses blocages. Et dans ton dernier ouvrage, tu as travaillé surtout sur la reconnaissance, sur l'estime de soi, la reconnaissance des autres, comme quoi c'est fondamental. Et ben, on t'invite à nous faire découvrir tout ça. Merci.
Merci infiniment. Merci à vous, merci Aurélie, merci à la Fabrique du Changement de m'avoir invité. Merci à vous d'être là. Il y aura beaucoup de liens avec ce qu'Aurélie vient de dire. Oui, dans le dernier ouvrage, à peine le jour où je me suis aimé pour de vrai, ce matin, je vais vous parler de reconnaissance. Mais tout de suite, en commençant, le dernier ouvrage parle d'ego. Et quand je parle de reconnaissance, ce n'est surtout pas la reconnaissance de l'ego. C'est la reconnaissance de l'être. Reconnaître. Et je suis toujours gêné quand je parle de ce sujet-là. Parce que ce que je vais vous raconter ce matin, vous le savez déjà. Ma tête me fait parfois penser à une boule de verre que j'avais reçue à Noël quand j'étais enfant. On secouait la boule. Il y avait une simili-neige qui envahissait la boule. On déposait la boule et on regardait la neige se déposer. Ma tête me fait parfois penser à ça. Parce qu'il suffit que quelqu'un prononce une phrase pour que cette fasse réactiver quelque chose qui était déjà dans ma tête, dont j'avais oublié l'existence. Ce matin, ce que je vais raconter, c'est simplement pour réactiver dans nos têtes quelque chose qui est déjà là. Nous allons ensemble secouer notre boule pendant les minutes qui viennent. Donc, reconnaissance. Pourquoi je viens vous parler de reconnaissance? Parce que ça fait 30 ans que je soigne des personnes qui ont craqué dans l'espace de travail. Et quand ces personnes-là arrivent dans mon bureau, elles arrivent avec deux phrases. Je ne sais plus qui je suis et je ne sais plus où je vais. Je ne sais plus qui je suis, identité. Je ne sais plus où je vais, sens. Et elles me parlent beaucoup de reconnaissance et sur leurs lèvres. Au début, je me disais, mais voyons, la reconnaissance, c'est simple. Bonjour, merci, comment ça va? Et finalement, à force de creuser le problème, je me suis rendu compte que c'était infiniment plus complexe que ça ne l'était. Voilà pourquoi on va en parler ce matin. Avez-vous remarqué qu'un moment de sa vie où une personne reçoit le plus de reconnaissance, c'est à ses funérailles? C'est fascinant tout ce qu'on trouve à dire au sujet de la seule personne qui n'entend pas. C'est fascinant. Au cours des dernières années, je suis allé de plus en plus souvent dans des salons funéraires. Ce n'est pas devenu une obsession. C'est parce qu'il y a des amis à moi très chers qui ont perdu des êtres chers. Alors, je suis allé très souvent dans les salons funéraires. Il y a une phrase que j'ai entendue à d'innombrables reprises qui me jette par terre chaque fois, c'est la phrase suivante. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit avant. Je me suis dit, ça ne m'arrivera jamais. Encore un lien avec Aurélie. Quand mon père a eu 70 ans, maintenant il y en a 91, mes frères et mes sœurs m'ont demandé de lui rendre hommage. Je suis l'aîné chez nous, tout le monde pensait que ça me revenait. Alors j'ai accepté avec un grand plaisir, j'ai commencé à rédiger l'hommage et j'ai évoqué tout ce que mon père faisait à mes yeux de très difficile pour nous. Quand il quittait, entre autres, la maison à 4 heures du matin, en pleine tempête d'hiver, pour aller sur les routes afin de gagner la pitance pour sa conjointe et ses 5 enfants. Alors j'évoquais tout ça. Arrive le soir de son anniversaire, à la fin du repas, je reçois un coup de coude. Serge, c'est le temps de faire l'hommage. Je me lève, je commence à faire l'hommage. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé. Je suis incapable de continuer. Je suis sans voix, je sanglote. Mon père me regarde, je suis tellement ému. Il me regarde et me dit, « Hey, continue. Ça fait du bien. Mon père partirait demain. Je serai en paix. » Parce que je lui aurais dit ce que j'avais à lui dire pendant qu'il était en mesure de l'entendre. C'est le premier message que je veux passer. Parfois, on a peur de reconnaître. Et il faut penser au jour où la personne pourrait peut-être être partie et surtout ne pas se retrouver au salon funéraire en train de se dire « La seule chose que je regrette, c'est de ne pas lui avoir dit avant. » Donc, oser. Deuxième élément par rapport à la reconnaissance dans l'espace de travail, je vais vous lire une citation d'un homme qui s'appelle Louis Dumont, un grand sociologue qui étudie beaucoup la montée de l'individualisme dans notre société. Il a écrit un livre qui s'appelle « Essai sur l'individualisme ». Il dit ceci « Nous sommes passés d'une société qui aime les personnes et utilise les choses » à une société qui aime les choses et utilise les personnes. Dans la plupart des sociétés traditionnelles, les relations entre les êtres humains sont plus importantes et plus hautement valorisées que les relations entre les êtres humains et les choses. Cette primauté est renversée dans les types modernes de sociétés où les relations entre les êtres humains sont au contraire subordonnées aux relations entre les êtres humains et les choses. L'être humain devient alors une ressource dont le rendement doit être satisfaisant, au même titre que l'outillage, les machineries et les matières premières. Et bien moi, je crois que la reconnaissance peut renverser cette tendance, qu'elle peut redonner sa place à l'être humain dans le monde du travail. Je suis allé dans une organisation il y a plusieurs années très importante au Québec. C'est l'organisation qui fournit l'électricité pour l'ensemble des Québécois et des Québécoises. Ça s'appelle Hydro-Québec. On m'appelle et on me dit, écoutez, on a deux grandes inquiétudes. La première, c'est que les taux d'absentéisme montent beaucoup pour des causes de troubles psychiques, même chez les personnes qui utilisent surtout leur corps, les monteurs de ligne, chez qui on s'attendrait à avoir de l'absentéisme pour maux de dos, tendinite, bursite, etc. Première cause d'absentéisme, le trouble psychique. Et on me dit la deuxième raison pour laquelle on aimerait vous voir dans notre organisation pour bâtir des programmes de prévention, c'est qu'il y a une diminution de la motivation chez nos cadres. Et on ne comprend pas. Parce qu'il y a quelques années, les gens étaient fiers, me disait-on, de travailler pour cette entreprise. Alors qu'à l'époque où on m'a téléphoné, il y avait honte de dire qu'ils travaillaient pour l'entreprise. Il y avait un grand scandale, l'Ordre du Temple solaire, une secte, qui était en France d'ailleurs aussi. Il y avait eu des grands scandales à cause de dépenses qui avaient été faites inutiles, bon, etc. Alors, je trouve ça très stimulant. J'essaie de travailler à l'intérieur de l'entreprise. Arrive une grande crise, c'est appelée la crise verglas. Il y a plu, il y a neigé pendant plusieurs semaines, les arbres, les branches ont commencé à casser, les poteaux ont commencé à tomber, les fils étaient arrachés, beaucoup de personnes manquaient d'électricité, c'était en plein hiver. Alors, ce qu'il y a eu de fascinant, c'est que quelques jours après la crise, zéro absentéisme à l'intérieur de l'entreprise. Zéro présentéisme à l'intérieur de l'entreprise. Ça, le présentéisme, c'est les personnes qui sont là, mais qui ne sont pas là. Qui disent, il me reste 18 ans avant ma retraite, comprenez-vous? Zéro présentéisme à l'intérieur de l'entreprise. Alors, je me dis, et là, il y avait un enthousiasme, une énergie. Les gens chantaient dans les corridors, sifflaient dans les corridors, travaillaient le soir sans qu'on leur demande, entraient le week-end. Les retraités téléphonaient, j'aimerais vous donner un coup de main. Je dis, on a notre solution, il faut une crise de verglas par année. Et comme on n'est pas capable de créer ça, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai essayé de comprendre quelles sont les variables, quels sont les critères qui expliquent qu'en quelques heures, cet enthousiasme soit apparu. Alors, je me promenais dans les corridors, j'interrogeais les gens qui sifflaient. « D'où vient votre enthousiasme? » Et là, les gens me répondaient, « Je me sens utile. » Et là, je leur disais, « Mais vous étiez utile hier. Si vous n'aviez pas été là hier, on aurait eu de sérieux problèmes au Québec. Comment se fait-il qu'hier, vous ne vous sentiez pas utile et qu'aujourd'hui, vous vous sentez utile? » Et là, j'ai compris qu'il y avait un problème dont la reconnaissance peut nous permettre de sortir. Un grand piège qui nous fait perdre de vue le sens qu'on peut donner nous-mêmes à notre travail. Et c'est le piège de la routine, de l'habitude, de l'usure. Et ce piège, on ne le trouve pas seulement dans le travail, on le trouve à l'extérieur du travail, dans nos vies personnelles. L'habitude, la routine, l'usure, on va s'amuser quelques instants. Deux personnes se rencontrent, deviennent amoureuses l'une de l'autre. Vous savez cette étape où tout est merveilleux? À chaque fois, j'ai toujours envie de dire, vous en souvenez-vous? Mais vous savez, c'est l'étape où on regarde l'autre et tout est beau. Les yeux, le nez, la bouche, tout est beau. Les oreilles sont un petit peu décollées, mais c'est pas grave. Ça donne un genre, ça va bien avec le reste. Il y a une étape comme ça. Notre fille est en amour, il y a plusieurs années, notre fille est en amour à plusieurs reprises. J'allais souvent la reconduire avec son copain. Un soir, je la regardais dans on fait le taxi, hein. Je la regardais dans le rétroviseur, je regardais notre fille regarder son copain. Dans ses yeux, il était parfait. Je regardais le copain, j'avais pas du tout la même perception. Il y a un piège comme ça, l'habitude, la routine, l'usure. 10 ans plus tard, les oreilles. Comment se fait-il que je n'avais pas vu ça avant? J'ai vu un humoriste américain à la télévision, j'ai trouvé tellement extraordinaire. Il disait, moi, mon chien, il est complètement fou. Il est complètement fou, mon chien. Ça fait 13 ans que tous les soirs, j'arrive à la maison. Eh bien, depuis 13 ans, tous les soirs, j'ouvre la porte, il part du fond de la cuisine, il court dans le corridor, il me saute dessus, il me lèche partout. Il disait, il est complètement fou. Il fait ça depuis 13 ans, tous les soirs. Il disait, imaginez un instant que votre conjoint partait du fond de la cuisine. Vous diriez, mais ça va pas. C'est fascinant, on trouve ça normal d'un chien et on trouverait ça anormal d'un être humain. J'avais parlé ça dans une conférence à Québec. 4 semaines plus tard, je suis de retour dans un centre d'achat. Il y a une dame qui m'arrête comme ça, qui dit « Monsieur, j'ai quelque chose à vous dire. » Vous savez, votre histoire d'humoriste américain, là, ben, lundi soir, qui ont suivi votre conférence, j'ai décidé que je partais du fond de la cuisine et que je courais dans le corridor pour accueillir mon mari. Ben, elle dit « Mais achetez un chien, vous savez! » Le pire, c'est une histoire vraie. C'est l'usure. Pourtant, il suffit d'une seule chose pour sortir du piège de l'habitude, de la routine et de l'usure. Et parfois, la reconnaissance peut arriver à nous faire sortir de ce piège-là. Et c'est l'attention. Il y a plusieurs années, j'ai suivi une formation. Si j'en donne, c'est parce que j'en ai suivi. Et il y a une dame qui nous avait dit, ce soir, vous allez faire un exercice. C'est un mot que j'aime beaucoup, exercice. Exercice égale changement. Exercice égale apprentissage. Exercice égale discipline. Et bien, ce soir, vous allez faire un exercice qui risque de changer votre vie. Ça fait 15 ans de ça. Je ne savais pas à quel point elle avait raison. Je fais encore cet exercice tous les jours. Elle m'a dit, vous allez poser un geste que vous posez de façon routinière. On en pose des centaines par jour, des gestes de façon routinière. Elle avait dit n'importe quoi, vous lavez les mains, mangez n'importe quoi. Elle dit, vous allez poser ce geste comme si c'était la première fois. Je me dis, ça c'est un truc. Elle veut nous faire jouer avec notre attention. En effet, si je me lave les mains comme si c'était la première fois, toute mon attention va être sur la sensation de l'eau, sur mes mains, sur l'odeur du savon, etc. Elle avait proposé l'exercice dans l'avant-midi. Dans l'après-midi, ça m'était complètement sorti de la tête. Le soir, pendant le repas, ça m'est revenu. Pop! J'ai dit, tiens, je vais faire mon exercice. Je vais regarder ma compagne comme si c'était la première fois. Je commence à la regarder comme ça. Après quelques minutes, elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je fais un exercice. Elle m'a dit, quel genre d'exercice? J'ai dit, je te regarde comme si c'était la première fois. Elle me dit, et puis? J'ai dit, c'est fascinant. J'ai dit, je viens de constater quelque chose de merveilleux. J'ai dit, je viens de constater que quand j'arrive le soir à la maison, je n'ai la tête habitée que parce que j'ai vécu durant la journée. Donc, je suis dans le passé. Ou encore, je n'ai la tête habitée que parce que je vais vivre le lendemain. Donc, je suis dans l'avenir. C'est ça une place où je ne suis pas. C'est ici, dans le présent. Et je viens de découvrir que si volontairement je place mon attention ici, il se passe quelque chose de merveilleux. Et là, je vais vous énumérer quelques principes pour que la reconnaissance apparaisse dans l'espace de travail ou à l'extérieur du travail. Premier principe. À mon avis, le degré le plus élevé de reconnaissance qu'on puisse accorder à un autre être humain, c'est la qualité de notre attention, de notre présence. Mais cette attention doit toujours être accompagnée, deuxième principe, d'une qualité. Parce que si cette qualité n'est pas présente, la reconnaissance peut être perçue comme perverse, manipulatrice. Et c'est l'authenticité. Il doit y avoir quelque chose en arrière de ça, un agenda caché, l'authenticité. Et plus l'attention a été là, plus l'authenticité va y être accrochée. Troisième principe, la reconnaissance n'appartient à personne en particulier. Il y a une croyance à l'effet qu'elle doit toujours, dans le monde du travail, venir du haut vers le bas. Complètement faux. Elle peut aussi venir du bas vers le haut. Elle peut s'exprimer à l'horizontale. Elle n'appartient à personne en particulier. Nous avons tous et toutes le pouvoir de reconnaître. Quatrième principe, la reconnaissance est un cadeau quand je l'offre, mais elle est un piège quand je l'exige. Ce n'est pas parce que je l'exige qu'elle va arriver. Ça, c'est comme vouloir à tout prix être aimé. Aimez-moi. Meilleure façon de faire fuir quelqu'un d'autre. Autre principe, la reconnaissance apporte autant à la personne qui l'offre qu'à la personne qui la reçoit. Imaginez un instant, le moment où vous offrez un cadeau à quelqu'un, l'état dans lequel vous êtes, le plaisir que vous ressentez, parfois même il y a une certaine déception à cause des attentes qu'on a à offrir un cadeau. C'est fou. Autre principe, la reconnaissance doit toujours être gratuite, fondamentale. Ceci dit, j'aimerais maintenant vous amener dans deux espaces, il y en a plus que ça bien sûr, mais deux espaces où on peut explorer la reconnaissance. Le premier, c'est la reconnaissance des compétences. Des compétences, du potentiel, des ressources, parce qu'il y a aussi la reconnaissance des actes, mais je ne m'attendrai pas là-dessus. Dans la reconnaissance des actes, il y a leur utilité, ça permet de donner un sens, parce que quand j'exprime mon pouvoir de reconnaître à quelqu'un à propos de l'utilité de son travail, la personne peut se dire, ah tiens, quelqu'un s'en rend encore compte, mon travail est utile, donc il ne sert pas à rien, donc je ne perds pas mon temps, mon travail a un sens. Et la beauté du travail qui est fait par une personne. Quand j'étais enfant, je jouais souvent avec des blocs. J'essayais de faire une construction. Qu'est-ce que j'essayais de faire? J'essayais de faire de l'ordre avec du désordre. Moi, je crois que toute personne qui travaille au cours de sa vie essaie de faire de l'ordre avec du désordre, donc de fabriquer de la beauté. Et quand j'exprime à l'autre personne que j'ai observé la beauté de son travail, je lui exprime que je vois en elle la capacité de fabriquer de la beauté. Une des plus grandes sources de plaisir pour un être humain dans le travail, c'est de pouvoir utiliser son potentiel, ses capacités, ses ressources. Et voilà l'espace maintenant, après l'acte, que je vais explorer où la reconnaissance peut se développer. Potentiel, ressources, capacités. Et là, je voudrais vous lire un petit texte. J'ai des papiers, je vais les déposer. Celui-là, je n'ai plus besoin. Un petit texte qui m'a été envoyé il y a plusieurs années par des gens qui m'avaient entendu parler de reconnaissance. C'est un texte à propos d'un écrivain qui s'appelle Malcolm Dalkoff. Je ne connais pas. C'est écrit par un homme qui s'appelle Bob Green. Et ça dit ceci. « Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. » C'est ainsi qu'une mère gronde son fils, parce qu'il s'est éloigné d'elle dans la rue. Elle a crié si fort que tous les passants l'ont entendu. L'enfant réprimandé retourne près de sa mère, sans un mot, tête basse. Rien de bien méchant, direz-vous. Et pourtant, de telles petites scènes laissent parfois des traces indélébiles dans l'esprit de quelqu'un. La phrase qui suit est super importante. Et quelques mots, M-O-T-S, peuvent avoir un impact considérable, même si leur auteur n'y a guère prêté d'importance sur le moment. Enfant, et là on nous parle de l'écrivain Dalkoff. Enfant, Dalkoff était d'un naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Pourquoi la reconnaissance a tellement d'impact dans l'espace du travail et à l'extérieur du travail? Parce qu'elle joue sur l'estime de soi. Je m'entraîne physiquement 3 fois par semaine depuis plusieurs années. J'ai décidé d'acheter un vélo qui va nulle part. J'ai mis ça dans mon sous-sol. Comme c'est très ennuyant de pédaler sur un vélo qui va nulle part, je me suis acheté un écran de télévision, je regarde des films, National Geographic, etc. Un jour, j'étais en train de pédaler, je regardais un film sur les gazelles en Afrique, et il y a une phrase qui est montée dans ma tête que j'avais entendue quand j'avais 16 ou 17 ans, ça faisait très longtemps, par un professeur de philosophie, qui avait dit « L'être humain est dans la nature, l'organisme, qui lorsqu'il vient au monde avec le plus grand des potentiels, mais vient au monde le plus démuni. » Et pourquoi cette phrase est montée dans ma tête? Parce que je venais de voir une gazelle accoucher. Et j'avais vu bébé gazelle sortir du corps de sa mère et tomber au sol, un petit paquet humide. Après 4 minutes, elle était sur ses 4 pattes et elle gambadait. Après 10 minutes, elle courait à toute vitesse, heureusement pour elle d'ailleurs. Parce qu'il y avait un lion pas très loin qui avait l'air de la trouver très appétissante. À 10 minutes, elle était capable d'assurer par elle-même une partie de sa survie. Un être humain de 10 minutes, vous le placez sur un trottoir, il est laid, comme on dit chez nous. Il a besoin d'adultes significatifs pendant des années pour assurer sa survie. On estime aujourd'hui que c'est entre 25 et 30 ans à peu près. C'est une blague, c'est une blague, c'est une blague. Il a besoin d'être nourri, il a besoin d'être protégé. Hein, on tient la rue pour traverser la main, on ne met pas à moins 30 degrés, on est plein hiver tout nu dehors, ni à plus 30 degrés tout nu l'été sans protection. Il a aussi besoin d'être touché. Un enfant qui ne serait jamais touché pourrait en crever. L'histoire d'horreur qui a été vécue dans les camps de concentration. Il y a des femmes qui accouchaient dans les camps de concentration. On parquait les bébés dans les grandes salles. On les nourrissait, on les changeait de couche, mais jamais on les berçait. Jamais on leur disait « Ah, je t'apprécie », etc. Plusieurs de ces enfants crevaient. On a compris par une expérience en psychologie, d'ailleurs, on avait fabriqué une guenon en broche. On avait mis des petits biberons. Il y a des bébés singes qui accouraient. Ils pouvaient téter, mais le seul contact qu'ils avaient, c'était avec la broche. Ils essayaient de s'alimenter. On mettait une peau de fourrure autour de la broche. Les bébés singes accouraient, tétaient, mais étaient en contact avec la fourrure. Ils continuaient à s'alimenter. C'est quand même pas banal, imaginez, pour un être humain. Sauf que quand on vit au monde, on a un pouvoir extraordinaire sur son environnement. Je suis dans mon berceau, couché sur le... Oh non, j'appelle ça, pardonnez-moi. J'appelle ça l'empire de la chaise haute. Je suis assis sur ma chaise haute, c'est comme un trône. J'ai ma petite cuillère, c'est comme un sceptre. Là, je fais du jus, le jus apparaît. Du lait, le lait apparaît. Il n'y a pas un empereur qui a ce pouvoir-là sur sa planète. Jusqu'au jour où on l'entend pour la première fois, t'es assez grand pour aller chercher tout seul. Cette journée-là, on a un grand deuil à faire. Le deuil du pouvoir qu'on a sur l'environnement pour intégrer le plus grand pouvoir qu'on aura dans la vie, celui qu'on a à l'intérieur de soi. Il y a des gens qui passent leur vie sur une chaise haute. Hein? Apporte-moi ma bière. Je suis dans mon berceau, couché sur le dos, les 2 yeux grands ouverts. Au-dessus de moi, il y a 2 visages. Et là, je fais mon premier sourire. Ça part, ces 2 visages-là. Ah, tu vis ça? on va chercher la caméra. Il y en a un qui prend dans ses bras que t'es belle ou que t'es beau, que t'es fin, que t'es fait. Hey, j'enregistre ça et j'associe ce que je viens de faire avec ce que je viens de recevoir et je me mets à en faire un paquet. Et ça, Jean Monbourquette, un grand conférencier québécois qu'on a perdu il y a 3 ans, nous dit, voilà où commence la reconnaissance. C'est la reconnaissance de l'acte. Et ça permet de construire le premier pilier de l'estime de soi qui s'appelle « Je suis capable ». Deuxième pilier de l'estime de soi, l'enfant qui ne fait rien, est assis dans le milieu d'une pièce en train de regarder voler une mouche. Là, il y a un adulte significatif qui le prend dans ses bras, qui lui dit « que je t'apprécie, que je t'aime ». Il ne va pas se demander ce qu'il a fait pour faire ça, il faisait rien. La seule chose à laquelle il peut associer ce qu'il vient de recevoir, c'est à son maître. Et se construit ainsi le deuxième pilier de l'estime de soi qui est « je suis aimable ». Je suis aimable, je suis capable. Il y a beaucoup d'adultes que je vois dans mon bureau qui ont confondu l'être et l'acte, qui essaient de prouver à tout le monde qu'ils sont capables à travers le, pardon, qu'ils sont aimables à travers le je suis capable. Et c'est pour ça qu'ils se brûlent. Revenons à Dalkoff. Il était enfant de naturel terriblement anxieux et timide. Il avait peu d'amis et aucune confiance en lui. Et puis un jour au collège, Mme Brauch, son professeur de littérature, a demandé aux élèves d'imaginer la suite d'un roman célèbre et d'en rédiger un chapitre. Aujourd'hui, Dalkoff ne se souvient ni de ce qu'il a écrit, ni de sa note. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'oubliera jamais la remarque de l'enseignante dans la marge. « Vous avez une bonne plume. » 5 mots qui allaient changer sa vie. Avant cette remarque, j'ignorais totalement ce que j'avalais et je n'avais aucune idée du métier que j'exercerais. Or, ce jour-là, je suis rentré chez moi et j'ai rédigé une nouvelle. Je m'en étais toujours cru incapable, mais c'est cette fois-là que j'ai commencé à le faire. Dalkoff est convaincu que sans ces quelques mots dans la marge de son devoir, son destin aurait été différent. Vous avez une bonne plume. Par la suite, et là j'ai perdu mes papiers que je cherche depuis quelques instants. Attendez un instant. Bon, ben c'est pas grave. Alors, Dalkoff est convaincu que sans ces quelques mots, pourtant je les avais tout à l'heure. Non. Pardonnez-moi, je suis désolé. Non, mais il faut que je trouve le reste. Ah oui, ici. Voilà. Oui, voilà. Je l'avais perdu. Le jeune élève a été nommé rédacteur en chef adjoint du journal de son école et gagné davantage en assurance. Une vie pleine de réussite et de satisfaction allait s'offrir à lui. Des années plus tard, ça c'est fondamental, Dalkoff est retourné sur le lieu de son enfance et a rendu visite à Mme Brauch, qui avait pris sa retraite. Il lui a expliqué comment, grâce à elle, il avait osé devenir écrivain. Et comment, toujours grâce à elle, il avait à son tour, et ça c'est très important parce qu'on peut créer une masse critique de personnes qui croient à la reconnaissance dans l'espace de travail et créer des boucles vers le haut, vers le bas, à l'horizontale. À son tour, il a insufflé un peu de confiance en elle à une jeune femme qui allait devenir son épouse. Celle-ci préparait son diplôme de fin d'études secondaires en prenant des cours du soir et s'était tournée vers lui pour bénéficier de ses conseils. Ce récit avait beaucoup touché l'enseignante. Décidément, tu ne feras jamais rien correctement. Vous avez une bonne plume. Notre vie dépend parfois de bien peu de choses. Maintenant, le dernier espace où on peut explorer la reconnaissance de l'être, de la personne. Il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de travailler sur un film avec une femme qui s'appelle Carole Poliquin, québécoise. Le titre du film, L'âge de la performance. Dans ce film, on voit des producteurs, producteurs de poules, producteurs de porcs. Et on voit un producteur de porc, de toute évidence, il est authentique. Il nous dit ceci, « Je dois utiliser dorénavant les techniques les plus modernes d'engraissement. Je n'ai pas le choix pour demeurer compétitif. » Et il nous dit qu'il a gagné, au cours des 10 dernières années, 2 semaines. Que ça prend 2 semaines de moins pour qu'un porc arrive au même poids. Mais il nous dit, malheureusement, il y a un problème qu'on n'avait pas prévu dans nos porcheries, c'est le syndrome du porc stressé. c'est que la chair ne se développe pas au même rythme que la carcasse. Par conséquent, elle devient suintante, rosée, malheureusement impropre à la consommation. Donc, on doit sacrifier ses porcs. Tout de suite à lui, on voit un producteur de poules. Il se promène dans le poulailler un matin et ramasse des poules mortes. On se demande de quoi ils sont mortes, les poules, et il nous répond du syndrome de la mort subite de la poule. Alors, on ne comprend pas ce qui se passe. C'est qu'elles ont reçu tellement d'hormones pour se développer rapidement que leur cœur, malheureusement, entre en défaillance cardiaque. Bon, je peux comprendre ces producteurs. Mais là où ça m'inquiète, c'est que le regard que ça crée peut glisser tout doucement, sans que nous nous en rendions compte, vers l'humain. Et ça a déjà commencé. Il y a une émission au Canada qui s'appelle Découverte, où on nous a présenté un dimanche soir une université en Californie où on inscrit des fœtus à l'université. C'est sûr que le fœtus ne peut pas se rendre à son cours tout seul. Ça fait que sa mère l'amène. Et là, on met des écouteurs sur la bedaine. Et pendant que la mère marche, il y a des mots placés sur les, qui traversent les, la paroi abdominale et la paroi utérine. Et les mères, pardon, les enfants de ces mères-là, à l'âge de 6 mois, ils sont capables de parler. À l'âge d'un an et demi, ils sont capables de lire. Tout le monde s'émerveille. À l'âge de 7 ans, plusieurs d'entre eux font un burn-out. Les psychologues qui soignent ces enfants-là disent aux parents, vous allez prendre un peu de temps dans votre quotidien pour leur lire des histoires, leur raconter des contes, leur parler de fées, de dragons, de sorcières, de géants, d'elfes, parce qu'ils ont constaté qu'en 7 années de vie, ces enfants-là n'avaient jamais eu le temps de ne rien faire. On peut comprendre les parents. Ils disent, ils vont vivre dans un monde tellement compliqué, on va les outiller au maximum, mais il y a une erreur dans cette analyse. C'est quand un enfant fait rien, il ne fait pas rien. Quand un enfant fait rien, il est en train de développer son imagination, sa créativité. Il voit un bout de ficelle, il fait un fleuve avec. Il voit une boîte de carton, il fait un château, un village. Et Dieu sait que cette créativité va être une force monumentale pour l'aider à traverser les périodes difficiles de son existence. Nous aussi, on a développé un rapport très particulier au rien faire, les adultes. Il y a des personnes que je soigne qui arrivent dans mon bureau, qui me disent, vous savez, le samedi après-midi, quand j'ai terminé ce que j'avais prévu, il y a une phrase qui monte dans ma tête du genre, j'ai bien dû oublier quelque chose. Quand j'étais enfant, j'étais chez mes grands-parents, et après le repas du soir à la campagne, on se berçait comme ça, et on regardait passer des voitures sur la route, et on se disait, je sais pas lui où il s'en va ce soir. Et on ne se sentait pas coupable du tout de ne rien faire. Dans le film, on voit une petite fille de 5 ans inscrite au Better Baby Institute à Philadelphie, l'institut du meilleur bébé. Et on voit toute sa journée. Le matin, elle commence à courir en courant 4 à 5 kilomètres. Le midi, pendant qu'elle mange, sa mère lui montre, lui enseigne l'histoire des religions. Et ça continue comme ça jusqu'à 17 heures. À 17 heures, la femme qui fait l'entrevue demande à la petite fille, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas fait aujourd'hui que tu aurais aimé faire? Et la petite fille a une réponse extraordinaire, oui, quelque chose que je faisais quand j'avais 3 ans. Alors la personne lui demande, qu'est-ce que tu faisais quand tu avais 3 ans, tu ne fais plus aujourd'hui. Et là, la petite fille, c'est fascinant, c'est une petite blonde, elle devient toute rouge, il y a un blocage, elle baisse la tête, et dit, demandez à ma mère. Moi, je pense qu'elle voulait dire, jouer. Et là, je vais vous lire un autre texte qui m'a été envoyé après une conférence. Vous avez peut-être déjà lu ce texte. Ça dit ceci, j'ai parcouru plusieurs kilomètres pour trouver le cadeau parfait pour mon enfant. Après 2 longues soirées fatiguées, j'ai pensé lui demander ce qu'il voulait. Voici la liste des cadeaux qu'il m'a suggérés. J'aimerais être Félix, notre petit chat, pour être moi aussi pris dans vos bras, chaque fois que vous revenez à la maison. J'aimerais être un baladeur, pour me sentir parfois écouté, par vous deux, sans aucune distraction, n'ayant que mes paroles au bout de vos oreilles, fredonnant l'écho de ma solitude. J'aimerais être un journal pour que vous preniez un peu de temps à chaque jour pour me demander de mes nouvelles. J'aimerais être une télévision pour ne jamais m'endormir le soir sans avoir été au moins une fois regardé avec intérêt. J'aimerais être une équipe de hockey pour toi, papa, afin de te voir t'exciter de joie après chacune de mes victoires. J'aimerais être un roman pour toi, maman, afin que tu puisses lire mes émotions. À bien y penser, je n'aimerais qu'une chose. Ne m'achetez rien. Permettez-moi seulement de sentir que je suis un enfant. Eh bien, je pense que dans le milieu de travail aujourd'hui, d'innombrables êtres humains ne veulent sentir qu'une chose, qu'ils ou qu'elles sont des êtres humains. Et ça se fait à travers les choses les plus simples de la vie. Bonjour. Merci. Comment ça va? Il y a plusieurs années, j'ai été très malade. En 1984, j'ai fait une hémorragie digestive massive. Je me suis retrouvé aux soins intensifs pendant 3 jours. Tubes dans le nez, tubes dans la vessie, des tubes partout. On voulait à tout prix m'opérer, je refusais. Je ne sais pas ici que vous devriez m'enlever quelque chose. C'est ici. Et il y a un gastro-entérologue extraordinaire qui m'a dit, je te donne 24 heures. Si dans 24 heures, tu saignes encore, on t'opère, que tu le veuilles ou non. On ne veut pas vider la banque de sang pour toi. Et on ne voudrait pas te perdre. J'ai dit, c'est un bon deal. Si dans 24 heures, je saigne encore, j'accepte d'être opéré. Le lendemain matin, je me suis réveillé. J'étais lucide pour 5 minutes par heure, tellement j'avais perdu de sang. Entre un homme et une femme dans la chambre, habillés tout en blanc, des soignants, la tâche de l'homme, c'était de lire la quantité d'urine qu'il y avait dans le sac qui pendait au bout de ma vessie. Il prend le sac comme ça, et comme on dit au Québec, il soigne le sac comme ça, et faire voler la sonde et tout ce qu'il y avait au bout. Je ressens une douleur terrible, comme si la foudre m'avait traversée. Et là, je lui dis, monsieur, il y a quelqu'un au bout du sac. Il me faisait une tâche en ayant oublié qu'il la faisait pour une personne. Il n'avait pas du tout généré en moi le goût de le reconnaître. Autre principe, la reconnaissance, ça se génère. Le même jour, à 16 heures, il rentre une dame dans la chambre, je ne l'ai jamais oubliée. Elle me dit, bonsoir, je m'appelle Garde Jutras. J'ai eu la chance de lui rendre hommage devant 300 personnes plus tard, dans une conférence que je donnais grand public à Québec. Elle dit, bonsoir, je m'appelle Garde Jutras. Le tube que vous avez dans le nez, vous allez cesser de regarder. Je passais mon temps à regarder le tube, pensais magique que ça arrêterait le segment. Je vais le regarder à votre place. Et là, m'a parlé pendant 2 minutes de sa famille, son fils qui était de mon âge. Elle est partie. Elle est revenue 2 heures plus tard. Je ne l'avais pas sonné, je ne lui avais rien demandé. Avec un petit plateau en métal. Elle a humecté mes lèvres, ma langue, parce que j'étais très déshydraté. Elle m'a parlé du temps qu'il faisait dehors. Je ne voyais pas dehors aux soins intensifs. Ça a duré 2 minutes. Elle a quitté la chambre. Elle est revenue vers 00h15 pour savoir si je dormais ou je ne dormais pas. Je présentais une énergie extraordinaire. Je l'ai prise par les 2 bras, je l'ai embrassée sur les 2 joues. J'aurais jamais cru que je fasse ça aux soins intensifs. J'ai dit merci pour ce que vous avez fait pour moi ce soir. J'ai cessé de saigner. Le lendemain matin, j'avais une énergie incroyable. Jamais je n'ai eu besoin d'être opéré. Parce qu'à ses yeux, j'étais une personne. Alors, c'est tout simplement ce qui est le message que je voulais vous transmettre avec une dernière citation. Deux, trois petites dernières citations. Une qui vient de Christian Bobin, qui dit « Un trèfle à 4 feuilles, grand écrivain, on n'en découvre pas si souvent, c'est rare, presque miraculeux. » Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de célébrations de l'excellence dans cette société, mais moi je crois que ce qui fait avancer les organisations, ce sont les petits gestes ordinaires, de qualité, posés chaque jour. Un trèfle à 4 feuilles, on n'en découvre pas si souvent, c'est rare, presque miraculeux. Oui, je veux bien, mais je tiens déjà pour miraculeux. Un trèfle de l'espèce ordinaire, à 3 feuilles. Je ne reviens pas de ces choses les plus banales. Et moi, devant elle, promis à disparaître. Une personne qui lave une autre personne, âgée, incontinente. Un geste ordinaire, posé chaque jour. La reconnaissance, pas les lois. Il y a des mots, M-O-T-S, qui font vivre. Et ce sont des mots innocents. Le mot chaleur, le mot confiance. Amour, justice et le mot liberté. Le mot enfant et le mot gentillesse. Et certains noms de fleurs. Et certains noms de fruits, le mot courage et le mot découvrir, et le mot frère et le mot camarade, et certains noms de pays et de villages, et certains noms de femmes et d'amis. Il y a des mots qui font vivre, il y a des regards qui font vivre, il y a des gestes qui font vivre. Et dernière, c'est simple la reconnaissance, ça peut être juste paf. Et la dernière citation, Christian Bobin, il faut accomplir toutes choses, et même les plus ordinaires. Surtout les plus ordinaires, ouvrir une porte, écrire une lettre, tendre une main avec le plus grand soin et l'attention la plus vive, comme si le sort du monde et le cours des étoiles en dépendaient. Et d'ailleurs, il est vrai que le sort du monde et le cours des étoiles en dépendent. Et moi, je crois ça profondément. Alors, je vous invite tout simplement à utiliser votre pouvoir de reconnaître sans rien attendre en retour. Merci beaucoup.